journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la lutte des soignants de l'AP-HP en souffrance, parole recueillie par Tara Schlegel. La République des pollueurs en ligne de mire de centaines d'activistes aujourd'hui dans le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris. Le dernier débat de la présidentielle ukrainienne avec à Kiev Claude Brouillot. Et puis invité de cette édition, le spécialiste de l'Égypte Stéphane Lacroix, à la veille du référendum qui offre au président Abdel Fattah al-Sissi la possibilité de régner jusqu'en 2030. Les syndicats de l'assistance publique hôpitaux de Paris exigent un moratoire sur toute fermeture de lits et autres suppressions de postes. Une manifestation a pris fin devant le siège parisien de la PHP où s'est tenu un conseil de surveillance. Tara Schlegel a rencontré à deux pas de l'hôtel de ville Camille et Clément, infirmières et infirmiers aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine et de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Au manque d'effectifs chroniques s'additionnent les violences endurées au quotidien.
Il faut savoir que depuis début 2019, on a eu 5 collègues qui se sont fait agresser pour Saint-Antoine.
Le mercredi dernier, on a eu 5 collègues de nuit qui se sont fait agresser par différents patients qui étaient violents en une nuit. Il y a eu une collègue qui a eu 5 jours d'ITT parce qu'elle a été mordue à l'ongle et que l'ongle s'est pété en deux et qu'elle a eu des saignements. Ça faisait hyper mal, elle était choquée aussi. Et lorsqu'on doit gérer un afflux de patients qui augmente de jour en jour depuis des années, et qu'on est à moins 3, moins 5 effectifs et qu'on se rend compte qu'on va devoir gérer ça et qu'on n'a pas, malheureusement, qu'on n'a pas de réponse, et ben on subit en permanence et à la fin ça devient épuisant.
On manque de temps surtout, on manque beaucoup de temps. On est tiraillé parfois, je viens pour faire une prise de sang, après il y a 4 autres bilans qui arrivent, je dois me dépêcher parce qu'on n'est pas beaucoup. Et j'ai ma patiente qui est devant moi qui fond en larmes parce qu'elle a peur, parce que c'est une dame qui a par exemple des troubles cognitifs et qui ne sait pas où elle va aller, qui ne sait pas où elle est, qui a besoin d'être rassurée. Et je me dis, j'ai 5 minutes pour essayer de l'apaiser. On essaye de prendre le temps pour ces gens-là, mais c'est du temps qu'on vole aux autres patients, en quelque sorte.
Lorsque vous dites à une personne âgée, nous on manque de matériel, comme partout, on va dire. Ça m'est arrivé une fois de dire à une personne âgée de 65 ans, madame, excusez-nous, mais il faut absolument un brancard parce qu'une personne qui vient de faire une crise, il faut un brancard. Donc là, cette personne-là qui a fatigué, qui a mal au dos, qui est épuisée, qui est là depuis 10 heures, on la met sur une chaise. Il faut vous rendre compte qu'on a tellement honte de faire ça, malheureusement, on n'a pas le choix. On travaille dans des conditions qui sont inacceptables et on est en première ligne.
Une intersyndicale de cette organisation avait appelé à des rassemblements aujourd'hui devant les commissariats au lendemain de l'annonce de 2 nouveaux suicides, scènes de recueillement à Roanne, Toulouse, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand ou encore Lyon. Désobéissance civile de masse cet après-midi à la Défense à Paris, avec pour principale cible le siège de Total, archétype, je cite les ONG à l'origine des occupations du jour, archétype de l'alliance toxique entre État et multinationales. Des dizaines d'activistes se sont par exemple rassemblés devant la tour Total, devant une banderole frappée des mots « République des pollueurs ». C'est un reportage de Véronique Herberotte.
Nous voilà devant donc le siège Total, assailli de bon matin, les salariés sont empêchés d'y entrer. Thomas est un de ces désobéissants assis devant la tour Total. Derrière lui, un ruban de signalisation plastique où est inscrit « scène de crime climatique ». C'est la première fois que Thomas participe à ce genre d'action.
C'est un moyen d'agir, de m'engager au maximum dans mes convictions.
Vous faisiez quoi jusque-là ?
Des manifestations, des tractages, de l'engagement associatif surtout.
Maintenant, pour bloquer le siège de Total.
Voilà.
Scène de crime climatique, c'est comme ça que vous voyez les choses ?
Oui, complètement. Parce qu'il y a déjà des gens qui meurent dans certains pays à cause du dérèglement climatique. Et on se comporte comme si on n'avait rien fait, comme si tout allait encore bien.
2000 citoyens et militants ont répondu donc à l'appel des ONG, ce qui ne surprend pas Jean-François Julliard, c'est le directeur de Greenpeace France.
Ça ne nous surprend pas parce que c'est les souhaits qu'on entend dans les marches pour le climat depuis plusieurs mois maintenant. On a envie de s'engager de manière plus radicale, de manière plus forte. On a envie de désobéir. On est extrêmement enthousiaste à l'idée qu'aujourd'hui, c'est une première. On n'a jamais vu ça. Une action de désobéissance civile avec plus de 2000 personnes, c'est du jamais vu à ma connaissance en France. Donc voilà, ce sont les messages qu'on entend. Donc on n'est pas surpris de cette envie d'aller encore plus loin.
Nous agissons, réaction du ministre de l'écologie François de Rugy, dont le ministère a lui aussi été visé, aux quelques militants radicaux qui ciblent le gouvernement et le président. Vous vous trompez d'ennemi, a réagi le ministre.
Quels engagements attendre à ce chapitre de la part du président de la République ? Eh bien, élément de réponse, jeudi prochain, on l'a appris ce soir lors d'une conférence de presse dédiée à la conclusion de l'opération gouvernementale dite du grand débat. stand-up politique en stade olympique à Kiev sur de gigantesques estrades. Les deux finalistes à l'élection présidentielle ukrainienne se livrent en ce moment même à un débat-spectacle face à face. Volodymyr Zelensky, comédien et novice en politique, et le président sortant Petro Porochenko en nette délicatesse dans les enquêtes d'opinion. Volodymyr Zelensky, l'inexpérimenté, vierge de toute usure et mauvaise conduite politique, prétend ce soir casser le système. Nous sommes en ligne avec Claude Brouillot à Kiev. Bonsoir Claude.
Bonsoir Mathieu.
Claude, la révélation de ce scrutin, Claude, sort-elle en position de force, dirions-nous, de cette dispute en plein air ?
Écoutez, pas vraiment si l'on s'en tient au seul contenu des échanges. Petro Porochenko, on s'y attendait, hein, avait pour lui évidemment une meilleure connaissance des grandes questions de l'actualité ukrainienne. Mais c'est aussi dans la forme que le président sortant a pris le dessus sur son adversaire. Tout a commencé dès le début des échanges d'ailleurs, par un coup de théâtre, quand Petro Porochenko a quitté la scène qui lui était dédiée pour parcourir les 50 mètres qui le séparaient de Zelensky et venir s'installer à côté de son adversaire, qui apparut d'ailleurs déstabilisé par la manœuvre. Ensuite, le camp Porochenko était en surnombre dans le stade et les propos de Volodymyr Zelensky étaient souvent rendus inaudibles par les sifflets de ses opposants. Enfin, alors que tout le monde s'attendait à entendre et à voir le comédien candidat à faire un numéro, en quelque sorte, contre les oligarques corrompus, un peu comme dans ses sketchs sur scène, eh bien, Volodymyr Zelensky, un peu emprunté, a souvent eu recours à ses textes, obligé de lire ses interventions, quand Petro Porochenko, lui, déclamait ses 5 années d'expérience sous les acclamations de son public. En fin de débat, Zelensky a tout de même pu placer quelques attaques sur, par exemple, les 5 années volées par Petro Porochenko au peuple ukrainien, je cite, mais le président sortant avait, lui, passé l'essentiel de ses interventions tournées vers son adversaire à lui expliquer que diriger un pays comme l'Ukraine, ce n'est pas du cinéma et que pour arrêter, par exemple, la guerre dans le Donbass, il ne faut pas aller à genoux voir Vladimir Poutine.
Merci à vous, Claude Brouillot, en direct de Kiev. Au Maroc, plus de 300 médecins exerçant dans les hôpitaux du nord du pays ont annoncé leur démission dans une lettre conjointe envoyée au ministère pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail dues au sous-effectif ainsi qu'à de profondes inégalités géographiques et socio-économiques. Oran, Constantine, Annaba, El Oued dans le Sahara, Tamanrasset, Sétif et Alger, aucune disparité géographique en ce 9e vendredi consécutif de mobilisation en Algérie. Mobilisation et détermination intactes de celles et ceux qui veulent en finir avec le régime et son calendrier électoral. Au Soudan, les principaux leaders de la contestation réunis au sein de l'association des professionnels soudanais qui regroupe entre autres des médecins, des ingénieurs et des professeurs, eh bien, cette structure annonce la formation d'un conseil civil qu'ils veulent voir remplacer le conseil militaire au pouvoir depuis la destitution par l'armée le 11 avril d'Omar el-Béchir. En ces temps compliqués pour l'autocratie, le régime égyptien se donne les moyens d'allonger la foulée. Le président Abdel Fattah al-Sissi, arrivé à la tête de l'Égypte par un coup d'État en juillet 2013, élu en 2014 et réélu en 2018, à chaque fois avec 97% des suffrages, est censé se retirer à l'issue de son deuxième mandat en 2022. Grâce au texte soumis demain et après-demain aux Égyptiens par référendum, il pourra briguer un mandat de 6 ans en 2024 et prétendre gouverner ainsi jusqu'en 2030. Nous sommes comme convenu en ligne avec Stéphane Lacroix, chercheur au Centre international de recherche internationale de Sciences Po. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Il faut peut-être d'abord dire un mot de la vitesse à laquelle cette réforme institutionnelle a été menée. Stéphane Lacroix, des pressions sur les propriétaires de cafés et de kiosques à journaux pour qu'ils fassent campagne pour le oui. Les rares formations d'opposition ne sont pas en mesure de donner la répartie. Alors pourquoi en pareille circonstance réformer à toute allure ?
Cette question elle avait été lancée dès l'année dernière. C'est vrai que le calendrier s'est un peu accéléré, mais voilà, de toute façon, le pouvoir est certain du résultat. Il contrôle le processus. Il essaye simplement de créer une sorte de façade, un peu de démocratie, mais à laquelle personne ne croit. Donc, ce que ça montre, c'est qu'en vérité, on a un pouvoir qui se fout complètement du processus démocratique. Et ça, c'est quelque chose d'absolument classique quand on a suivi les évolutions en Égypte ces dernières années. Rien de surprenant.
Mais en quoi ce référendum est-il indispensable à ce pouvoir ?
C'est un pouvoir qui, comme un certain nombre de pouvoirs autoritaires dans le monde arabe, et c'est pas le cas seulement en Égypte, effectivement, cherche à se valider par des élections. La plupart des dictateurs du monde arabe, que ce soit avant 2011 ou après, ont toujours cherché à faire valider leur pouvoir par une façade institutionnelle plus ou moins démocratique à laquelle, là encore, pas grand monde croit, mais qui considère qu'elle est importante, ne serait-ce que parce que ça permet à un certain nombre de leurs partenaires étrangers de faire semblant, et on le voit avec l'Égypte, de faire semblant que le président a été élu, alors certes, on va dire, dans des conditions qui posent un peu problème, mais malgré tout, ça lui permet à l'international d'apparaître comme un dirigeant légitime, en tout cas pour ceux qui ont envie de le croire. Et là encore, ceux qui ont envie de le croire, évidemment, ont d'autres intérêts qui les poussent à ça.
Alors, cette réforme, prolongation, prorogation, pourrait-on dire, d'un règne, le président a la haute main sur la justice, tandis que l'armée voit ses pouvoirs augmenter. Où est passé l'esprit de Tahrir de 2011, dont vous parliez à l'instant ?
Il est écrasé complètement. On a un pouvoir qui s'est construit sur les décombres de la révolution, sur les décombres de la transition démocratique qui a commencé en 2011 et qui a appris une leçon de la révolution de 2011, c'est qu'il ne faut laisser absolument aucun espace à l'opposition ou à la société civile. Hein, l'analyse que fait Sisi de la chute de Moubarak, c'est que précisément parce que Moubarak, dans les dernières années de son règne, a ouvert des espaces à l'opposition, qui étaient limités, qui étaient contraints, mais qui permettaient malgré tout en Égypte d'avoir des députés de l'opposition au Parlement, qui permettaient sous Moubarak, les dernières années, d'avoir une presse semi-libre. Tout ça n'existe plus du tout. On a aujourd'hui un pouvoir qui est un pouvoir militaire et qui considère que tout espace de liberté, aussi insignifiant soit-il, est une menace. Et donc aujourd'hui, le processus est entièrement contrôlé, beaucoup plus qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire de l'Égypte, peut-être même si on remonte jusqu'à Nasser, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus autoritaire que sous Nasser.
Alors, Stéphane Lacroix, aucun soutien pour l'opposition à l'international. Les puissants font montre, semble-t-il, de beaucoup d'indulgence à l'égard d'Abdel Fattah al-Sissi. Pourquoi, selon vous ?
Ben parce que voilà, l'agenda des puissances internationales a changé. D'abord, le président Trump, évidemment, se soucie assez peu de démocratie et de droits de l'homme. La Russie ou la Chine, qui ont une influence grandissante au Moyen-Orient, s'en soucient aussi peu. Et l'Europe, qui, elle, devrait ou pourrait s'en soucier, est à la fois terrorisée par la menace du terrorisme et donc considère que il vaut mieux avoir affaire à des dictateurs qui tiennent leur pays que prôner un changement dont on ne sait pas ce qu'il pourrait amener. Et donc voilà, donc on se retrouve évidemment dans cette situation assez dramatique pour les sociétés civiles de la région. Le président Macron a fait quand même une petite encartade au mois de janvier quand il a eu sa visite au Caire, puisque dans la conférence de presse, il s'en est pris directement à Sisi sur la question des droits de l'homme. Il n'y a eu aucun suivi par ailleurs. Et puis ça a été quelque chose qui était assez singulier. Les puissances en général qui s'adressent à Sisi ne le font pas comme ça. Donc ça ne changera probablement rien du tout en vérité.
Stéphane Lacroix, pardonnez-moi de vous couper la parole, mais cette réforme, pour en terminer, menée au plus vite, même si elle a été amorcée il y a quelques mois, au plus vite peut-être parce que le contexte régional est difficile, Soudan, Libye, Algérie ?
Oui, peut-être, en effet. Alors, ça présente malgré tout un risque, puisque les Égyptiens sont mécontents, on le sait. Il y a beaucoup plus aujourd'hui d'Égyptiens qui rejettent massivement Sisi que par le passé. Hein. Il est arrivé après 2013 avec une certaine popularité qui était réelle à l'époque parce que la révolution avait amené du chaos et de l'insécurité. Donc, les Égyptiens qui voulaient un retour à la normale. Aujourd'hui, la situation économique s'est dégradée. Le pouvoir est de plus en plus dur. Et donc, on a des gens qui pourraient sortir dans la rue. Le pouvoir prend un risque, à mon avis, et plutôt en organisant cette consultation maintenant. Ce risque est calculé parce que, là encore, l'appareil répressif est pleinement conscient et donc demain les Russes seront quadrillés, on fera en sorte qu'aucun manifestant ne puisse sortir et si un malheureux décidait de le faire, il finirait en prison immédiatement. Donc pouvoir malgré tout s'assurer que tout ça est sous contrôle. Mais c'est vrai que voilà, moi je pense que dans ce contexte-là, en vérité, c'est plutôt un risque pour le pouvoir de fixer la date d'une consultation maintenant, dans un contexte comme celui-là, de ce qu'on appelle parfois la deuxième vague du printemps arabe. Donc je crois pas qu'il se passera grand-chose, mais enfin, c'est assez curieux en vérité qu'ils aient décidé d'accélérer le calendrier, moi je trouve.
Merci à vous, merci Stéphane Lacroix d'avoir accepté notre invitation. Un immense parapluie sera bientôt installé au-dessus de la structure de Notre-Dame de Paris, qui a résisté à l'incendie de lundi dernier, information livrée ce soir par l'association des architectes en chef. Aucune urgence à court terme, témoigne la météo de demain, du beau temps presque partout en France, température printanière comprise entre 15 et 25 degrés. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto à la technique, Anthony Thomasson.